Je vous remercie. C'est un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir prononcer cette conférence au cadre de la coopération entre le Collège de France et l'Université d'Uppsala. Et les 5 siècles de recherche menées sur l'Antiquité au sein de ces institutions inspirent quand même humilité. Mais cela donne aussi un peu le vertige. Ça donne du vertige. Parce que y a-t-il de nouveau à dire? Peut-être quelque chose de distordu? On verra. Chacun procure ce qu'il peut. On a apporté pierre, du bois, et ensemble, on bâtit les murs, les plafonds et les escaliers tournants de la grande maison de la connaissance humaine. Mais ce que j'apporte aujourd'hui, c'est quelque chose de, si j'ose dire, énigmatique. C'est une pierre angulaire, mais une pierre déformée, si vous voulez. Je vous parlerai aujourd'hui d'une image chez Euripide, et je me permets de lire le passage avec vous. Je suis venu d'ailleurs d'un temple divinissime dont le toit consiste de bois de cyprès local qui fut fendu à l'aide des haches des chalibes en poutres bien solides, ainsi jointes ensemble, car elles furent mélangées à la colle des taureaux. Et en grec, mais hors maître, 100 mètres, et tout à fait 100 mètres, Hecots atheus nous prolipon, hus affigenes steganus parechei, tmetheisa docus halubo pelechei, kai tafrodetto colle crathes atreceis harmus cuparisos. Bon. Je tenterai de développer une interprétation d'une des métaphores dans ce passage. Il s'agira du cyprès dont nous voyons les aiguilles ici. Je voudrais montrer que cette métaphore a un goût très particulier et c'est en effet une image cauchemardesque qui relève de la subversion de l'ordre naturel, cosmique et politique et d'une manière complexe et en même temps visible. Le bois reflète ce grand signe ostentatoire de la transgression des lois, à savoir, dans le contexte du mythe et du drame, le Minotaure. On affranchira ensemble 4 étapes de l'argument. D'abord, je parlerai du bois de cyprès, son rôle dans l'histoire culturelle en Grèce. Puis, on explorera le sens du mot employé pour désigner le mélange, kerenunai, des poutres de bois. Après cela, nous découvrirons une conception importante du corps, celui du Minotaure et celui du bâtiment dont Euripide mentionne dans le passage qu'on vient de citer. Et finalement, la question se posera pourquoi la Crète et sa maison royale est-elle punie d'une telle manière? Pourquoi ce monstre qui dévore la chair humaine? Le dénouement se trouve dans l'institution du sacrifice et du repas commun de la cité. Mais ce qui est plus important, un détail, une petite image qui paraît bizarre, voire frivole, nous donnera la clé de cette interprétation. Le bois, le mélange. Le corps, le sacrifice, voilà les quatre pas que l'on doit affranchir. À l'origine de cette histoire, on trouve une vache. C'est une vache fausse, un bovin robotique et un taureau. Le dieu de la mer, Poséidon, aide Minos à devenir le roi de Crète et Minos le promet de lui sacrifier un taureau. Mais Minos devient roi et il viole cette promesse. Et il le fait pour des raisons intéressantes, je pense. Henri, enragé, et pour le punir, Poséidon rend la femme de Minos, Pasiphae, folle d'un taureau. L'inventeur Dédale, construit alors une fausse vache, une vache factice. Le mythographe Apollodore et le poète Bacchylide nous disent que c'était en bois, c'était xylinen boon. Et ça, c'est important. Et cela se voit dans cette mosaïque, qui est beaucoup plus tard, mais quand même irrésistible. Elle est de provenance de Tsefkma, Zeugma, ville fondée par Alexandre le Grand, et elle est maintenant au musée de Gaziantep, en Turquie. À gauche, nous voyons Pasiphae, est assise, et au-dessus d'elle, il y a une tête de bovin. Est-ce la tête qui servira de décor à la machine bovine? C'est possible, mais il n'est pas rare de trouver des animaux sous les trônes de divinités ou de figures mythologiques, et ce sont les animaux qui appartiennent à ces figures. À côté de la tête, on voit un petit héros qui joue avec son arc. Et c'est le désir qui lie Pasiphae au taureau. À la droite, il y a une femme qui n'est pas nommée, peut-être Ariane, peut-être quelqu'un d'autre. Et au milieu de l'image, il y a une nourrice, Trophos. Et elle a l'air un peu inquiet, et là on a de bonnes raisons, parce que à sa droite se trouve Dédale, et qui se penche vers son fils, Icaros, Icare. Il ne veut évidemment pas qu'elle le gêne pendant ses travaux importants. Et donc il se penche vers son fils. Il y a une scie, un ciseau et du bois. Aussi une hache double, le symbole de la Crète. Donc c'est du bois. N'oublions pas ce bois. L'histoire telle que je viens de la raconter est la version que nous donne Apollodore, et c'est aussi celle d'Euripide. Dédale bâtit la machine, Pasiphae y entre, elle est placée dans un champ où paît le taureau, et le reste, c'est de l'histoire. Ou plutôt, le reste, c'est du mythe, parce qu'elle donnera naissance à un petit, le Minotaure, on l'enferme dans le labyrinthe et on lui donne de jeunes Athéniens à manger. La tragédie d'Euripide commence par la chanson d'un chœur de prêtres, si l'on permet l'expression, de prêtres orphiques, membres d'un mouvement qui adhérait aux doctrines supposées du grand chanteur, chaman, etc., Orphée. Ce mouvement était connu pour des mœurs déviants, par exemple, leur végétarisme, et on y reviendra. Mais nous n'avons que des fragments de ce drame. Dans une partie fascinante, Pasiphae et Minos débattent la responsabilité pour la naissance du monstre. Le roi ordonne aux serviteurs d'enfermer la reine pour toujours à l'Antigone, et le cœur le prie de se calmer. Peut-être, Icare, vers la fin, peut-être il chantait une chanson, mais on ne le sait pas. La date est également incertaine, mais les années 430 sont du moins probables. Le drame est pourtant fascinant dans plusieurs perspectives. Il relève de l'histoire de la pensée morale, de la conception et de la responsabilité et de l'intention comme composante dans les jugements éthiques. Et on verra également que cette tragédie est bien entretissée avec un grand problème, bien que parfois presque invisible, à savoir celui des végétariens. Mais faisons attention à un autre détail. Il y a un plafond ou un toit. Ces vers ont généré assez peu d'intérêt chez les commentateurs. Adele Teresa Cozzoli parle de la struttura templare solida, la structure solide du temple. Je ne suis pas d'accord. D'autres parlent de la charpenterie qualifiée de ce toit ou ce plafond. On va voir. Mais il s'agit de bois mélangé avec la colle ou à l'aide de la colle. Jane Harrison et Walter Burkert ont suggéré qu'il s'agissait d'un rituel où on versait ou éclaboussait du sang de bœuf sur le temple, mais c'est une conjecture assez superflue, parce qu'il y avait la colle taurine. Ceci n'est pas du tout absurde. Pline nous renseigne que la meilleure colle se faisait des génitaux et des oreilles des bovins. On mijotait ces parties des cadavres. Et lentement, quelque chose de très spécial s'engendrait. Une glycrotes myxodes, selon la belle formule d'Aristote, une viscosité gluante. Bon. Il est possible qu'il s'agisse de poutres laminées, cela veut dire que l'on a coupé les troncs de l'arbre et puis on a coupé les planches pour obtenir des lamelles qu'on colle l'une en direction inverse à l'autre pour rendre les poutres plus forte. Et on a démontré que cette technique s'utilisait en fait pour les boucliers en bois en Grèce. Et dans ce cas-ci, on a besoin de colle. Et la colle était en effet un des grands coûts dans le travail de construction en Grèce ancienne. Je réfère ici à un ouvrage de A. Trevor Hodge, The Woodwork of Greek Roofs, sur la construction des toits en Grèce ancienne. Donc, rien de remarquable, cette colle taurine. Sauf qu'il s'agit quand même du drame de la naissance du Minotaure, mi-taureau, mi-homme. Et c'est vachement. Il est, disons, très digne de noter qu'il s'agit d'un bovin dans la construction du temple et de la phrase. Le taureau, la colle, la vache et le cyprès. L'histoire du cyprès est longue. J'ai apporté un handout. Vous ne les voyez pas, mais c'est un conte de cyprès de provenance aristotélicienne. Un jardinier au Lycéon, c'est de chez Aristote, quand même. Un jardinier me l'a donné. Ça m'a plu beaucoup. Bon, et l'histoire du cyprès est longue et très intéressante dans la région de la Méditerranée. Diodore, par exemple, Crète, c'est le territoire du cyprès. Diodore nous dit qu'il y avait un bosquet de cyprès tout près de Knossos, et dans les lois, Platon parle de façon marquée, presque insistante, des cyprès imposants de Crète. Et Pindare également utilise l'arbre comme mytonymie de l'île même. Et pour un drame crétois, cela convient. Mais il y a aussi un autre parfum, je pense, ou odeur, dans le cyprès. L'arbre nous rappelle de la mort et du deuil. On bâtissait des cercueils en bois de cyprès, chez Ovid. Certes, c'est une source tardive et idiosyncratique par rapport à une œuvre qui date des années 430, mais quand même, chez Ovid, on trouve le jeune homme Cuparissus qui est transformé en cyprès après qu'il a perdu son animal quasi domestique, un cerf. Et l'arbre vit toujours et il nous rappelle de la mort. Il se trouve toujours dans les cimetières, et quand ceci n'est pas possible pour des raisons climatiques, par exemple en paysage scandinave, on fait planter des genièvres au lieu des cyprès. Donc, je me permets de vous montrer une œuvre complètement anachronique, mais peut-être perpétuelle et donc pas anachronique du tout. C'est la Toteninsel, l'île des morts, de Arnold Böcklin, le grand peintre suisse. Nous voyons un bateau qui s'approche de l'île, un rameur et une personne en habit blanc. Et dans les rochers, il y a des chambres funéraires. Et au milieu, il y a ces arbres énormes, des cyprès. C'est l'île des morts. Donc, l'histoire du cyprès, en tant que cucarbre sépulcral, est très longue et elle vit toujours. Le cyprès est donc lié à Crète et au deuil et à la mort. Et c'est un arbre majestueux. Diogène Laërte écrit que les disciples de Pythagore se refusaient d'user des cercueils en bois de cyprès parce que le sceptre de Zeus était fait de cette espèce de bois. Et le rôle joué par le cyprès dans l'histoire culturelle est de même attaché aux propriétés, disons, proprement physiques, matérielles du bois. Le bois de cyprès est durable. Sa durabilité est remarquable. Platon voulait, toujours dans les lois, et sans doute pour cette raison, que l'on utilisât des tablettes en bois de cyprès pour les archives de la cité. Et Pline parle d'un bâtiment dont les portes étaient très vieilles, 4 siècles, mais qui avait l'air d'être toute neuve. Donc le cyprès vit et survit et elle dura longtemps. On a vu la crête, le deuil et la mort et la durabilité, ce bois de cœur extrêmement dur. C'est l'image parfaite de la solidité et, si j'ose dire, de la véracité. Voilà des poutres. Ils ne sont pas en bois de cyprès. Je suis désolé, je n'en ai pas trouvé. Bon, tournons au texte et à la deuxième étape de notre parcours. Nous trouverons la formulation Crethes Cuparisos, le cyprès est mélangé. Et c'est le philosophe Porphyre, platonicien et végétarien, qui cite ce texte. Chez lui, il y a la forme Crethes, et il y a quelques suggestions. On a suggéré que c'était peut-être Pechthes, figé, ou Xunthes, construit. Mais on s'est quand même fort peu intéressé à ce mot. Et la grande majorité des auditeurs optent pour cette lecture, pour Krathes. Et ça veut dire c'est mélangé. Collard, Cropp and Lee disent que la parole expresses the idea of making separate things into a whole, exprime l'idée de créer un ensemble par des choses d'abord séparées. Et par cela, le grand silence. Et quand même, une des paroles est étrange dans ce contexte. Précisément, Crathes, c'est un participe passif aoriste au singulier féminin, de keranunai, mélangé, mais c'est un cas très particulier de mélanger, de keranunai, car keranunai est apparenté au cratère, ça veut dire le récipient dans lequel on mélangeait le vin et l'eau. Donc dans keranunai, il s'agit proprement de l'activité de mélanger du vin et de l'eau. C'est le verbe dont on se sert pour indiquer cet acte. Mélanger le vin et l'eau. Donc, pas de poutre en bois, pas d'objets solides, mais des fluides. Et cela crée une certaine sensation de confusion, je pense. On regarde vers le plafond, vers les poutres, s'il y en a, et ce ne doit pas du tout être quelque chose de liquide ou de fluide. Le sens du verbe, celui de mélanger quelque chose de liquide, est transféré au domaine de ce qui est stable et solide. Ce transfert est de nature métaphorique. Mais comme métaphore, cette image pose un problème. Elle exige une explication. Je ne vais pas vous faire souffrir, donc ça suffit. Mais vous l'avez bien vu, cette image est un tourbillon de choses qui ne se conviennent pas, qui ne s'ajustent pas. La distinction entre le solide et le fluide est une de celles qui organisent le monde. Les récits de la genèse du monde décrivent souvent la séparation de ce qui est solide, ce qui est gaz, air, brume, atmosphère, etc., et de ce qui est liquide. C'est le sens du mythe de l'émasculation d'Uranos. C'est la séparation du ciel et de la terre. Et nous en trouverons des traces dans un Anaximandre et ailleurs. Mais L'image d'Euripide semble subvertir cette distinction. Selon Aristote, la métaphore place une ressemblance pro-omaton devant nos yeux et les métaphores doivent être construites des composantes qui se ressemblent, apo eke okeion, de ce qui est apparenté l'un à l'autre. Mais on ne doit pas les construire apo ton phaneron, mais ton phaneron, pas de ce qui est trop évident. Ça veut dire la ressemblance entre les éléments de l'image ne doit pas être trop claire, trop évident. Euripide ne semble pas connaître ces règles, désolé. Les deux choses, le bois et le liquide, ne sont pas semblables, elles ne s'installent pas pro omaton devant nos yeux dans cette image. Il est bien difficile de visualiser cette métaphore. Bon. Après la conférence la semaine dernière, Gabriella Pironti a attiré l'attention sur le fait qu'il y a souvent ou toujours dans des textes poétiques ou peut-être quelconque texte un surplus de sens potentiel. Et cela pose des questions, cela pose des problèmes. Cette interprétation est-elle un jouet, une manière de jouer avec ce grand éventail de possibilités herméneutiques? Le problème, ce n'est pas le jeu. Le problème, c'est la perspective d'une multitude arbitraire d'interprétations également arbitraires. Dans le roman Baudolino et Umberto Eco parlent du vortice dell'interpretazione, le vortex de l'interprétation. C'est une belle image, c'est le grand maelstrom, le tourbillon académique où tout est possible, qui permet toute interprétation, qui les dévore toutes, car tout est mangeable et tout est potable. Bon, si l'on veut s'emparer de ce problème, il faudra démontrer la systématicité de l'image qui nous intéresse. Il faudra expliquer le champ de Keraneunai, du mélange au grec et en grec. Si cette expression est normalisée, lexicalisée, si elle fait déjà part du langage quotidien ou tragico quotidien, s'il en est, en ayant perdu toute référence au liquide. Si c'est le cas, bon, on peut aller à la maison, vous chez vous et moi chez moi. Mais malheureusement pour vous, j'ai de la bonne chance. Parce qu'on n'en a pas encore fini de ce mélange perturbant. Si nous cherchons dans les sources, si on cherche des instances de métaphores qui engagent Keraneunai, on en trouvera. Chez Platon, il y a des images du mélange qui nous intéresseront. Il parle de sensations en termes de mélange, telles la jouissance et la douleur. Et de même, il décrit des changements de coutumes, d'institutions, demeures, dans des images qui émanent également de Keraneunai. Et ce qui est notable là, c'est que les sensations du corps et les institutions sociales et politiques, ce ne sont pas d'objets solides. Certes, il est bien possible de discuter du degré auquel ces phénomènes sont matériels, dans la perspective platonicienne et dans la nôtre, s'il en est, mais par rapport à l'objet solide chez Euripide, le bois de cyprès, c'est bien autre chose. Platon parle aussi, ou plutôt quelqu'un d'autre qui porte le même nom pour nous, parce que c'est dans le Critias, quand même. Platon parle aussi des saisons, des climats, des saisons qui sont mélangées de manière balancée, horas metriotata kekramenas, et un climat immatériel quand même. Et nous savons que les odeurs, par exemple, consistent de particules. Et en fait, selon Diogène Laërte, c'était aussi la théorie des épicuriens. Mais à part cela, on trouvera des métaphores où le mélange est le mélange des sons. Thucydide parle d'un endroit où les dialectes grecs étaient mélangés une agglomération d'autres dialectes. Et dans le dernier drame de Ripil, les Bacchantes, tragédie du fusionnement et de la transcription par excellence, on nous chante du son du tympanon, du tambourin, mêlé, kekrasan, à celui des flûtes. Tout ceci, c'est déjà très tard, et beaucoup plus tard. En même temps, c'est moins radical que l'image que nous venons de découvrir. Dans aucune de ces images, parle-t-on d'un objet solide. Chez les présocratiques, et particulièrement Empédocle, on trouve des métaphores du mêlé à l'égard des éléments du cosmos, crassis, mélange, et beaucoup moins souvent keranunai. Et en tout cas, Pindare est le plus vieux, chez lui, il y a deux métaphores. D'abord, une personne qui est mêlée avec sa jeunesse, et puis la richesse qui est mêlée également, keranunai, à la vertu. Notons les caractères de toutes ces comparaisons. Des constitutions, des saisons, des sons, des éléments cosmologiques, des noms abstraits. Il n'y a aucun exemple d'une métaphore où le verbe keranunai se réfère à un objet solide ou un objet concret. Dans le cas du bois de cyprès, il est bien notable qu'il s'agit d'un phénomène très concret, très solide et très durable. Plus tard, on pouvait donc transférer le sens de mélanger vers quelque chose d'autre, mais ce transfert est moins radical, c'est moins hardi. Il s'agissait rarement de phénomènes physiques, et jamais ou presque jamais d'objets proprement dits, fussent-ils solides, spécifiques, etc. Tandis que dans les crétois, ce sont des poutres de bois, du cyprès, des objets durs. C'est une véritable collision entre les composantes de cette image. L'image est peut-être même hallucinatoire, horreur filmesque, si vous permettez, des poutres fluides, liquides, qui coulent au plafond. Il ne s'agit donc pas seulement d'une métaphore particulière, elle est tout à fait singulière à son époque et même au-delà d'elle. Ce n'est pas seulement une image audacieuse, c'est une métaphore sensationnelle à mon avis. Bon, on a franchi deux pas. On a parlé du bois, on a parlé du mélange et du verbe de mélanger. Mais n'oublions pas le corps. Et ça veut dire le corps, ça veut d'abord dire le corps du nouveau-né. À l'origine, nous trouvons ce corps. Tafru memiktai kai brutu kai diple fusei. Ça veut dire mélanger de taureau et d'homme de double nature. C'est un autre fragment des crétois de Ripide. Et j'ai parlé du bâtiment du temple. Et du toit et des poutres. Mais qui parle des bâtiments parle aussi des corps humains. Dans certaines langues, par exemple français et suédois, on parle du corps du bâtiment, le corps de logis. Cela relève d'une longue histoire, notamment chez Vitruve, l'architecte romain et l'auteur de Architectura. On trouvera toute une doctrine qui porte sur les proportions des bâtiments. Et celle-ci rapporte aux proportions du corps humain. Les parties du corps doivent avoir une exacta ratio, et sans une telle proportion, le corps humain n'est pas harmonieux. De même, les maisons, les temples, etc. Et cette conception n'est pas une invention à la part de Vitruve. Selon lui, ce sont les anciens antiqui qui le découvraient. Les écrits grecs sur l'architecture sont presque tous perdus, mais Vitruve les connaissait très bien. Il mentionne, par exemple, le livre d'Ictinos, l'architecte du Parthénon, dont la construction doit avoir été contemporaine à la mise en scène des Crétois, à peu près. Et Ictinos, j'en ai parlé la semaine passée, ça signifie d'ailleurs Milan, le Milvus, le rapace. Mais je résisterai à la tentation d'en parler aujourd'hui. Bon, dans la théorie d'architecture grecque, il y a donc une analogie entre le bâtiment et le corps humain. En outre, les mesures provenaient du corps, on comptait les pieds, les doigts, etc. Et l'ensemble du corps était bien visible dans les bâtiments même. Là, nous voyons les cariatides de l'érectéon, des composants corporels qui servaient du support au bâtiment. Et cette correspondance est même présente dans le Nouveau Testament. Saint Paul écrit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. To soma himon naos tu en himin hagio pneumatos. » Donc, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Concluons donc que le 5e siècle grec connaissait et partageait cette notion, cette correspondance entre le corps humain et le bâtiment. Et ceci nous permet de rapprocher les paroles d'Euripide sur le toit en bois de cyprès à celles du corps du Minotaure. Ce dernier est déformé, corrompu. Et la composition de la phrase sur les poutres collées reflète cette déformation, à mon avis. C'est la transgression, c'est la fusion des phénomènes inconciliables. On pourrait objecter qu'Euripide était peut-être innocent de telles connaissances architecturales, mais il y a une image remarquable dans l'Iphigénie en Tauride, où Iphigénie rêve, et elle parle d'un rêve de son frère Oreste en tant que pilier de la maison paternelle. Et c'est plus qu'une métaphore. Elle rêve qu'Oreste est vraiment un pilier, le pilier d'un bâtiment de la maison paternelle, et il pousse même des cheveux blonds de ce pilier dans le rêve. C'est une image singulière, mais elle démontre qu'Euripide lui-même thématise la correspondance entre le bâtiment et le corps. Dans le contexte du Minotaure et des Crétois, il s'agit d'un corps, d'un temple et des institutions religieuses et politiques qui sont distordues. On a affranchi trois étapes, trois pas de cet escalier. J'ai parlé du bois, du mélange et du corps. Et j'ai essayé de développer une interprétation de l'image des poutres mélangées comme si elles étaient un liquide. Je suggère donc que le décalage entre le bois solide du cyprès et l'acte de mélanger des fluides reflète le décalage entre les espèces, les parties du corps du Minotaure. Le toit consiste d'un composant de bois et d'un composant de bovin, et la coltorine, le monstre, fut engendré dans un assemblage bizarre de bois, de bovins et d'humains, et le Minotaure même est une agglomération de bovins et d'hommes. Je n'insisterai pas ici, pas trop, sur la systématicité de cette série d'agglutination. Bois, bovin, humain, et finalement bovin, humain, parce qu'on a d'autres choses à faire. Rappelons enfin l'origine du Minotaure. Minos avait promis de sacrifier un taureau à Poséidon, et ceci, c'est la première faute humaine dans ce mythe. L'omission du sacrifice est une transgression par rapport à l'ordre du cosmos et de la cité. Car la cité grecque était bien celle du barbecue. Les animaux mangent la chair humaine, les hommes, en dehors de la civilisation, mangent la viande crue, les dieux, l'ambrosie et le nectar, le steak tartare, c'est l'horreur. Je ne parle pas des modalités du sacrifice grec, ni même de la trame sacrificielle, selon l'expression de Vincent Perrin-Delforge. Ça veut dire la généralité de l'opération rituelle, au-delà de ses déclinaisons locales. Celles-ci sont fascinantes. Jesper Svenbro, par exemple, il a dit qu'il est symboliquement adéquat que l'on donne la langue de l'animal sacrificiel til prästen som uttalar bönen, au prêtre qui exprime la prière. Ce doit être, je ne sais pas, mais ce doit être la première fois que quelqu'un a dit quelque chose en suédois dans cette salle. C'est possible. Très bien. Aiguine à l'écroute a signalé la multitude des espèces de victimes sacrificielles, des chiens, des belettes, des serpents. Mais non, on ne porte pas de chouette à Athènes et on ne doit ni porter du steak tartare à Paris, nous du sacrifice grec. Donc, constatons que l'impératif de participer au sacrifice et à partager le repas. Le repas commun implique aussi que les végétariens principiels, ça veut dire les végétariens par principe, sont également par principe dans la perspective de la cité suspect, transgressif par rapport à la cité. C'est, pour emprunter les mots de Marcel de Tiennes, un acte hautement subversif de ne pas participer au rituel et à la viande. C'est l'acte d'une personne qui se met et je cite encore, en dehors du monde de la cité. Les orphiques et les pythagoriens qui renonçaient à la viande étaient déviants et à cet égard suspects aux yeux de la cité. Les témoignages sur le végétarisme des orphiques et des pythagoriens sont certes contradictoires et confus et la réalité est très difficile à discerner. Suffit-il de dire que dans l'imaginaire de la cité, cette renonciation au sacrifice était subversif et dangereux. Et le monde des Crétois est également en dehors de la cité, de cette cité, aux yeux des Grecs, de toute cité. Parce que c'était Minos qui omit le sacrifice de taureau, ainsi déclenchant cette série de désastres. Il y a une tradition qui se base sur l'interprétation d'un sarcophage à Rome, dans la Villa Borghese, et selon laquelle Minos omit le sacrifice parce qu'il était végétarien par principe. C'est peut-être trop imaginatif. Oui. Bon, mais il y a des. Quand même, Wilamowitz l'a pris au sérieux. C'était l'interprétation de Karl Robert dans un petit livre il y a 120 ans à peu près. Mais on ne peut nier le fait que le drame est dans cette version du mythe, c'est Minos qui est responsable des événements catastrophique, et justement parce qu'il décida de ne pas sacrifier le taureau. Et cette aberration végétarienne n'est pas que la sienne. Le corps de prêtres orphiques soutient qu'ils vivent une vie pure sans viande. C'est cela. Le monde de Crète, dans cette préhistoire, est perverti. Je crois qu'on doit contextualiser le drame d'Euripide et tout ce complexe bovin, humain, végétarien, cannibale, tartare dans le développement des mouvements dits orphiques et pythagoriens. Et si l'on veut comprendre la situation polémique, on se rappellera qu'il y a des témoignages sur l'influence croissante en Italie du Sud des pays pythagoriens, à Tarente en Pouille et à Croton en Calabre. On le voit par exemple chez Iamblic, la vie de Pythagore. Et ça, c'était au milieu du 5e siècle. Enfin, après des purges et des meurtriers politiques, les Pythagoriens ont perdu. Quelques-uns ont été brûlés dans leur maison. Mais même plus tard, dans la République, Platon parle des disciples d'Orphée qui, je cite, essaie de convaincre non seulement des individus, mais aussi des cités. Peithontes ou monon idiotas ala kai poles. Voilà le contexte et peut-être aussi des Crétois. C'est le danger supposé des végétariens qui se refusent à partager la grande institution de la cité, le sacrifice et la joie du repas commun. J'ai voulu attirer votre attention sur des complexes dont les éléments sont, dans la perspective des Grecs, inconciliables. Les parties du corps du monstre sont inconciliables, les espèces sont inconciliables. c'est le signe d'une aberration. Les composantes, les composantes de l'image, ça veut dire le bois de cyprès et le vin, et je me permets de vous déranger encore une fois, mais je veux montrer que c'est vraiment une image dont les composantes sont bien inconciliables. Donc, il y a des complexes dont les composantes sont inconciliables. Et de même, le végétarisme supposé ou l'omission du sacrifice à la part du Minos, c'est aussi inconciliable à la cité et au monde de la cité. L'impératif du sacrifice et l'omission du sacrifice, ce sont des éléments inconciliables dans l'imaginaire de la cité et des Grecs. Elles se reflètent, toutes ces incompatibilités, et se reflètent sur le niveau de la phrase et de l'image même. Car les éléments de cette métaphore sont en fait inconciliables. C'est le vortex. C'est le vortige. Oui, exactement. C'est le vortex et c'est le vortige et c'est le vertige, car les composantes de l'image, du corps et de la cité qui ne vont pas ensemble, qui ne conviennent pas. Bon, c'est une représentation parfaite du fusionnement des phénomènes distincts, de l'effacement des limites dont dépend et vit et survit la communauté politique. On a monté cet escalier tournant, et sous nos pieds, nous voyons le grand tourbillon de bois, de vin et de vertige d'où nous sommes sortis. Mais voilà l'interprétation et voilà l'escalier. J'espère qu'on aura quand même une bonne vue sur la cité. J'ai parlé très vite. Et il me reste encore un peu de temps. Et je parlerai d'un arbre. Ou je parlerai de l'arbre. C'est un chêne. Et pour beaucoup de nous, c'est le symbole même, c'est le ur-arbre. C'est l'arbre primitif, c'est l'arbre dans lequel commence tout. Et le chêne, en grec, c'est drus. Et drus, ça émane d'une racine proto-indo-européenne. Deru, cela se trouve aussi en sanskrit et en hittite, taru, etc. Mais Deru n'est pas seulement le chêne. En Grèce, ça veut dire un chêne. Mais ce n'est pas que le chêne. C'est aussi autre chose. C'est l'arbre même. Il y a deux troncs de cet arbre. C'est l'histoire de cet arbre, l'histoire de cette racine, l'histoire de ce mot et celui de deux troncs. Il y a d'abord tous les mots qui appartiennent à l'arbre. En lituanien, on parle des aiguilles utilisant un tel mot. Et en russe, par exemple, on parle du chêne. Et c'est le doub et c'est la même racine. Et l'arbre, c'est dirva. Et en suédois, on dit träd. Mais il y a aussi un autre tronc. Et qui se développe très tôt. Et c'est le tronc de noms abstraits. Parce qu'on parle, par exemple, de durabilité, durare, duratio en latin, et ce doit être apparenté. Donc, il y a des noms abstraits qui décrivent, décrivent autre chose que le phénomène physique de l'arbre même. En russe, on dit «здоровье», et c'est la santé. En anglais, on dit «truth», la vérité. En allemand, on dit «treue», c'est la fidélité. En vieux norrois, on dit «traust», et c'est le, C'est même la confiance. Alors, pourquoi parler de ça? C'est pour montrer que les deux troncs de cet arbre sont en effet métaphoriques. C'est l'arbre, le chêne, une grande métaphore d'où viennent le sentiment de la sécurité, de la foi, de la vérité et de la confiance. Donc, on peut imaginer la préhistoire des concepts scientifiques et théoriques et philosophiques tels la vérité, la foi, etc. par rapport et en tel que émanant de l'expérience de l'arbre. C'est l'expérience de voir un arbre et de le voir comme quelque chose de durable. Je ne parlerai plus, parce que j'en ai trop parlé. Mais il y a quand même, pour le futur, aussi des questions à poser sur cet arbre. Et l'arbre continue à pousser et à vivre. Et il nous pose des questions. Et c'est bien comme ça. Mais là, j'arrête. Je vous remercie.